Bonsoir, bonsoir. En fait, c'est un challenge à chaque fois, parce qu'il y a une telle température. Donc les gens piquent du nez, il faut les réveiller. Avec la température qui fait. Donc, normalement, dans tous les bons romans policiers, à la fin, bon, qui a fait le coup ? Le personnage a été assassiné, mais qui l'a tué ? Pourquoi ? Quels sont les motifs ? Donc j'avais annoncé avec mes six points, où d'ailleurs les trois derniers s'enchaînent. Paul a eu un souci profond de l'unité de tous les chrétiens, quelle que soit leur origine. Ceci l'a amené à se positionner par rapport aux prédicateurs judéo-chrétiens, à donner sa réponse à la question du mystère d'Israël. Et ceci nous amène directement à la question de pourquoi et comment Paul est-il mort ? Et quelle a été pour lui l'importance de la communion entre les églises ? Voilà le programme annoncé. Bon, sur lequel j'ai déjà en fait donné pas mal d'indices petit à petit. Notamment ces versets... Plus le temps passe, plus je les trouve absolument étonnants, révélateurs et pas assez connus, de Romains 15, l'avant-dernier chapitre de Romains. Donc, maintenant, je me rends à Jérusalem, donc 15, 25, 28. Maintenant, je me rends à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu prendre quelque part aux besoins des saints de Jérusalem qui sont dans la pauvreté. Deux choses que vous connaissez déjà, donc le terme « saint » pour parler des chrétiens de Jérusalem. On note aussi que pour parler des églises de Corinthe et de Thessalonique, Paul emploie toute la province, hein, la Macédoine et l'Achaïe. La France et l'Allemagne ont voulu aider Jérusalem. Bon, alors il se trouve qu'il y a une communauté de 50 chrétiens à Marseille et de 50 chrétiens à Aix, la Chapelle, mais ça fait la France et l'Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire, donc, la province. Ce qui peut peut-être nous faire penser, d'ailleurs, ce qui n'est pas improbable, que, un peu comme aujourd'hui en Afrique, vous savez, il y a des stations de mission. Vous avez la paroisse principale, mais vous avez des villages où il peut y avoir quelques familles chrétiennes à 10 kilomètres, etc., qu'il y avait des chrétiens qui vivaient déjà peut-être dans d'autres villes de l'Achaïe, à Épidaure ou à Delphes, et qui étaient rattachés à Corinthe. Bon. Oui, elles l'ont bien voulu, bon, les deux provinces, mais ça veut dire les églises de ces deux provinces, et elles le leur devaient. Si les païens, en effet, ont participé à leur bien spirituel, ils doivent à leur tour les servir de leurs biens temporels. Donc il y a cette idée que bien temporel peut correspondre à des biens spirituels. Bon, c'est un peu... c'est pas si évident. On pourrait répondre, seule la prière répond à la prière. Seule, bon, donc le fait de donner de l'argent contribue à un échange réel, tout aussi valable que les prières. Et c'est pas rien. Non. Quand donc j'aurai terminé cette affaire et leur aurai remis officiellement cette récolte, ce fruit, je partirai pour l'Espagne en passant par chez vous. Donc deux mystères se trouvent un petit peu comme ça condensés à la fin de la vie de Paul. Pourquoi écrit-il aux Romains aussi longuement, communauté donc qu'il n'a pas fondée, et où il dit vouloir ne se rendre, somme toute, que quelques jours. Et pourquoi aller en personne à Jérusalem pour une collecte d'argent, prendre un tel risque, se jeter dans la gueule du lion, en quoi cette collecte était absolument capitale pour lui ? Sachant d'ailleurs que sur les deux motifs là, le camarade Saint-Luc, dans les Actes des Apôtres, qui nous parle longuement de Paul, eh bien, ne nous parle pas de l'Espagne, du projet espagnol, même si nous voyons Paul aller à Rome, mais il y va, j'allais dire, non pas parce qu'il veut y aller. Bon, il a fait appel à l'empereur, il est prisonnier, bon, on l'amène pour être jugé à Rome, enfin, son dessein était d'aller à Jérusalem. Alors, ça, c'est dit. Mais pourquoi Paul va à Jérusalem dans les Actes des Apôtres? Je vous le demande. Non, ça c'est pour Rome. Mais pourquoi il va à Jérusalem? Non, non, il y va, tenez-vous bien, poussé par l'Esprit Saint. Alors, là, ça fait typiquement partie des arguments où un regard théologique et un regard historique peuvent se heurter. Ben, soit vous dites, bon, c'est contradictoire. D'un côté, il y a Paul lui-même qui nous dit, ben, moi je pars à Jérusalem pour y amener de l'argent. Vous dites, je vois pas ce qu'il y a de spirituel là-dedans. Et vous avez Luc qui nous dit, Paul, il y va plusieurs fois poussé par l'Esprit Saint. Est-ce que c'est contradictoire ? Pas forcément. C'est pas la même chose. Évidemment, les historiens un peu soupçonneux s'en donnent à cœur joie. Pourquoi Luc ne nous parle-t-il pas de la collecte ? Maintenant, il peut vouloir insister sur le fait que le motif profond de cette collecte est d'ordre spirituel, que c'est bien poussé par l'Esprit Saint que Paul, alors qu'il ne l'avait pas prévu, prend la décision d'aller en personne à Jérusalem. C'est pas « je cherche le bancomat qui est le plus près de chez moi ». Il veut vraiment y aller en personne, amener cet argent. Bon. Donc d'un côté, si vous voulez, nous avons la lettre aux Romains. En quelque sorte, le testament théologique et spirituel de Paul. Romains comme « Dernière volonté et testament », un article très célèbre de Günther Bornkamm, « Romans as last will and testament ». Puisque Paul y donne l'exposé le plus complet de son évangile, de son enseignement, de sa pensée. Et de l'autre, une montée à Jérusalem qui est de plus en plus modelée sur celle du Christ. Alors ce qui est très frappant, c'est que Luc effectue, selon le terme de la rhétorique grecque chère au paraliti, une synchrisis, c'est-à-dire une comparaison ordonnée entre la montée de Jésus à Jérusalem et la montée de Paul à Jérusalem. Trois annonces de la passion pour Jésus, trois annonces de la passion pour Paul. Donc à chaque fois, on avertit Paul de ce qui va lui arriver. Donc, les projets de Paul. Acte 19-21. Après ces événements, Paul forma le projet de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour gagner Jérusalem. Après avoir été là, il me faut voir également Rome, disait-il. Alors là, on peut dire, Luc, c'est complètement dans les clous de Romains. Je vais à Jérusalem et ensuite j'irai à Rome. Donc, le projet de Rome, il est là. Il envoya alors en Macédoine deux de ses auxiliaires, Timothée et Eraste. Pour lui, il resta encore quelque temps en Asie. Alors, ensuite il y a le projet de départ. 20-16. Paul avait en effet décidé de passer au large d'Éphèse pour ne pas avoir à s'attarder dans la province d'Asie. Il se hâtait afin d'être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Donc c'est vraiment, encore présenté comme une décision personnelle. Alors nos décisions personnelles doivent et peuvent être spirituelles, mais disons, c'est de son propre mouvement. Mais dans le discours aux anciens d'Éphèse. Maintenant, Verset 22. « Voici, qu'enchaîné par l'Esprit, je me rends à Jérusalem sans savoir ce qui m'y adviendra. Sinon que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que chaîne et tribulation m'attendent. » Effet d'annonce rétrospective, qu'il aurait été averti. « Bon, je suis enchaîné par l'Esprit. » Alors, quand il ira à Rome, il sera enchaîné tout court. Bon, l'idée, c'est que Paul ne peut pas ne pas aller à Jérusalem. Il est poussé par l'Esprit. Alors, ça nous rappelle un peu Jésus. « Voici, aujourd'hui et demain, je chasse les démons et j'accomplis les guérisons. Le troisième jour, je suis accompli. Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Voilà, bon. « Mais je n'attache aucun prix à ma propre vie pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur rende témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. » Alors ce passage est tissé du thème paulinien de la course. « Je cours tendu vers le but » de Philippiens, repris dans Timothée, « J'ai couru jusqu'au bout la route. Bon. » « Maintenant, voici que je le sais, vous ne reverrez plus mon visage. » Alors évidemment là, non seulement il va à Jérusalem, mais il ne reviendra pas en Grèce. Alors, entre parenthèses, ça c'est un verset que ceux qui disent que Paul, après Rome, a été libéré après Acte 28, a eu le temps de retourner en Grèce, écrire deux ou trois lettres, avant d'être réarrêté, on ne sait pas trop comment, et de revenir à Rome, ils ont un problème là, parce que Acte, vers 95, semble dire, Paul lui-même annonce dans l'Esprit Saint qu'il ne reviendra plus, au moins à Éphèse. Voilà, donc tout le monde pleure, on l'accompagne jusqu'au bateau. Alors 21, 4, on arrive à Tyr. « Ayant découvert les disciples, nous restâmes là 7 jours. Poussés par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Notez cette expression aussi, « monter à Jérusalem », qui est la même que Jésus, mais enfin on monte toujours à Jérusalem. Bon, donc les disciples, poussés par l'Esprit. Puis on va à Césarée, verset 8. « Descendu chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, donc un diacre qui est appelé évangéliste, nous demeurâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. » Entre parenthèses, ça veut dire que Luc, vers 95, est plutôt d'accord avec Paul que les femmes peuvent être prophètes, comme dans 1 Corinthiens 11, et non pas comme 1 Corinthiens 14, que les femmes se taisent dans les assemblées, parce que prophétiser, ça veut dire prophétiser dans l'assemblée. Donc Luc est ici plus fidèle à Paul que Tite ou Timothée, que la lettre de Tite ou de Timothée. Comme nous passions là plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver, et prenant la ceinture de Paul, il s'en lia les pieds et les mains en disant, « Voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme auquel appartient cette ceinture, les Juifs le lieront comme ceci à Jérusalem et le livreront aux mains des païens. » Expression qui ne peut pas ne pas nous faire penser à Jésus. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. À ces mots, nous nous mîmes avec ceux de l'endroit à supplier Paul de ne pas monter à Jérusalem. Deuxième fois. Il répondit, « Qu'avez-vous à pleurer? Je suis prêt, moi, non seulement à me laisser lier, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Il n'y avait pas moyen de le persuader, nous cessâmes nos instances disant que la volonté du Seigneur se fasse. Bon, c'est quasiment Gethsémani. Alors, vous me direz, cet Agabus, qui c'est? Il surgit. Alors, s'il surgissait là, on pourrait dire Agabus, connaît pas, quoi. Mais Agabus, on connaît, parce qu'il a été avant dans les Actes, où il a annoncé une famine qui a eu lieu. Donc, c'est un prophète crédible. Il intervient 2 fois dans le récit. Alors, est-ce que je vais retrouver Agabus? Bon, enfin, c'est au début des Actes, en tout cas. 11-28, j'y arrivais. Voilà. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Notez, même mouvement d'Agabus. Ils viennent de Jérusalem. L'un d'eux, nommé Agabus, ce qui semble plutôt dire qu'il habite Jérusalem, parce qu'à chaque fois, il descend de Jérusalem, se leva et sous l'action de l'Esprit, explicitement qualifié par le narrateur, se mit à annoncer qu'il y aurait une grande famine dans tout l'univers, l'œcuménée. C'est celle qui se produisit sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent alors d'envoyer, chacun selon ses moyens, des secours aux frères de Judée. Ce qu'ils firent en les envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabé et de Saül. Alors il y a une collecte chez Luc. Mais Paul y est co-délégué avec Barnabé d'Antioche pour amener une aide à Jérusalem. Et on est avant, semble-t-il, la collecte dont parle Paul dans ses lettres. Alors, pourquoi Luc ne parle-t-il pas explicitement de la collecte? Ça, c'est quand même un grand mystère. Et ça fait partie des mystères. Pourquoi, voilà, pourquoi Paul ne cite-t-il jamais Jésus? Pourquoi, il y a des trucs un peu mystérieux. Pourquoi Luc ne nous parle-t-il pas de la collecte? Ni d'ailleurs que Paul écrit des lettres. Si on n'avait que les actes des apôtres, on ne saurait pas que Paul écrit des lettres. Il fait des discours, ça c'est sûr, mais il n'écrit pas de lettres. Notez que dans un récit, c'est un peu compliqué. Vous dites, arrivé là, Paul écrivit une lettre aux chrétiens de bon, mais il aurait pu le mettre quand même. Cela dit, il est certain que Luc savait que Paul écrivait des lettres. C'est-à-dire, bon, je ne vous dis pas tout sur Paul. Je pense qu'il y a aussi un côté complémentaire des lettres de Paul. Dans les lettres de Paul, nous n'avons jamais Paul, évidemment, en action, faisant des discours aux non-chrétiens, puisque par définition, le Paul que nous connaissons, il parle toujours à des chrétiens. Donc Luc, il nous fait parler Paul plutôt à des non-chrétiens, juifs et païens, discours d'Antioche de Pisidie, discours d'Athènes, et il y a un discours aux chrétiens quand même, qui est le discours de Acte 20, des anciens d'Éphèse à Milet, et puis c'est tout. Donc, pas contradiction, contraste, différence, quelque chose qui nous intrigue et qui attire en nous le soupçon. Ça, c'est sûr. Un historien, il n'y a pas besoin d'être allemand et du début du XXe siècle pour se poser la question. Si Luc ne nous parle pas de la collecte, c'est parce que... Alors, ben si, il n'y en a pas. Si, il y a eu lieu, puisque Paul, ou bien qu'il... Enfin, non, ça voudrait dire remettre en question, alors là, vraiment beaucoup, beaucoup de choses, parce que dans les lettres de Paul, c'est clair qu'il y a l'argent, c'est clair qu'il y a la collecte, c'est clair qu'il va monter à Jérusalem, etc. Non, le doute un peu terrible. Ah, il ne l'a pas remise. Alors, il ne l'a pas remise. Alors, c'est une expression, la piste est là, qui est un peu ambiguë. Alors, il ne l'a pas remise. Il y a deux problèmes dans la « il n'y a pas remise ». Soit c'est du côté de l'émetteur, soit c'est du côté du récepteur. Il ne l'a pas remise parce qu'elle n'a pas été acceptée. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un échec du projet de communion de Paul. Et que Luc, dans sa stratégie irénique, dans sa stratégie de mettre en avant plutôt la communion entre les différents groupes chrétiens que la division... comme il l'a montré en acte 15, c'est-à-dire, Luc, il nous dit, écoutez, il y a eu des problèmes entre les premiers chrétiens. Je ne le nie pas, j'en parle. Je dis juste qu'à un moment donné, on s'est mis d'accord. Donc je vous raconte une histoire où d'abord il y a le problème, et ensuite il y a la solution. Alors il dit, non, mais après, il y a eu encore Antioche, tu comprends, il y a eu un premier problème, puis il y a eu une première solution, puis il y a eu un deuxième problème, puis après ils se sont réunis une deuxième fois, puis en fait après on a fait une motion d'ordre, on s'est retrouvés. Bon, Luc, il dit, écoutez, vous êtes gentil, je dis les problèmes. Je dis juste que, in fine, le parti de la communion a gagné. Bon. Mais s'il finissait les actes, si vous voulez, par la non-acceptation de la collecte, ce serait, pour les églises pauliniennes, pour Paul lui-même, terrible. Terrible. Il veut finir, comme c'est toute sa logique d'ailleurs, du fait qu'il y a concordance entre le désir de communion de Paul et des églises chrétiennes d'Asie mineure et de Grèce et le désir de rester en communion avec eux des apôtres de Jérusalem, des chefs des églises chrétiennes, de l'église chrétienne de Jérusalem. Il y a eu communion. C'est ça qu'il veut mettre en valeur. Alors, ça pourrait être du côté de l'émetteur, c'est-à-dire que Paul, l'argent était pris par les Romains, était confisqué. Alors, j'allais dire, à ce niveau-là, on s'en fout un peu, peu importe. Ce qui compte, c'est le geste. C'est-à-dire que l'argent ait été livré ou pas, hein. Il aurait pu nous le dire, d'ailleurs. Paul amenait cette offrande. Alors, il y a un verset dans les Actes qui suscite un petit peu le débat, parce que il mentionne... alors, vous allez voir un petit peu, est-ce qu'on peut comprendre ça comme ça ? Alors, où c'est là ? Il mentionne qu'il amène des secours... Je suis dans acte 22, bon. Alors, c'est assez intéressant. Quand Paul est convoqué par le Sanhédrin, après avoir été arrêté, il y a un dialogue avec le grand prêtre. Tout ça nous rappelle Jésus, d'ailleurs, hein. Il y a un jugement avec le grand prêtre et un jugement avec les Romains, comme Jésus y est. Paul savait qu'il y avait là d'un côté les Sadducéens, de l'autre les pharisiens. Il s'écria donc dans le Sanhédrin. « Frère, je suis moi pharisien, fils de pharisien, et c'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. » C'est assez jésuite comme formule, parce que, si je puis me permettre, parce que c'est pas complètement vrai non plus. Il aurait pu dire la résurrection de Jésus. Il dit la résurrection des morts. C'est pas faux. Si les morts ne ressuscitent pas, Jésus n'est pas ressuscité, comme dira Paul quelque part. Bon. À peine eut-il dit cela qu'un conflit se produisit, l'assemblée se divisa. Donc les pharisiens prennent sa défense. Donc Paul, ici, ne cherche pas le martyr à tout prix. Hein, comme Saint-Cyprien de Carthage, s'il faut se déguiser en jardinier et se mettre au fond du jardin et dire « Non, vous cherchez l'évêque de Carthage ?» Il n'est pas là. Il n'est pas là, on ne connaît pas. Bon. Alors après, si vous êtes repéré, arrêté, que vous êtes dos au mur, bon, c'est la grande église a toujours défendu cette idée. Le martyr, c'est dos au mur. Tant que je peux esquiver, j'esquive. Je me planque, je cache, je dis que je suis le postier, le facteur, la concierge. Bon, il n'y a pas de problème. Donc là, Paul, il dit, je suis un pharisien, je suis jugé pour mes croyances pharisiennes. Oui, enfin, pas complètement non plus quand même. Bon. Donc, les pharisiens se levèrent et protestèrent énergiquement. Nous ne trouvons rien de mal en cet homme. Bon, évidemment. Alors, l'ironie de Luc. La nuit suivante, le Seigneur, Jésus, donc, vint le trouver et lui dit, courage! De même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, encore faut-il que tu témoignes à Rome. Alors, d'une part, Paul n'a absolument pas parlé de Jésus. Donc, on peut dire, témoigner de Jésus, Jésus est sympa, parce que Paul a juste dit, je crois en la résurrection des morts. Ça, c'est une position de Luc, vis-à-vis des pharisiens de la fin du 1er siècle, consistant à dire, croire, témoigner en la résurrection des morts, c'est déjà témoigner de Jésus. Deuxièmement, ça montre que Paul ira à Rome, et que c'est poussé par Jésus, c'est l'intention de Jésus qu'il aille à Rome. Là aussi, ce n'est pas un pur projet personnel de Paul, ou uniquement parce qu'il est prisonnier. Donc, ensuite, il y a l'histoire du neveu de Paul. Hein. Je vous en ai parlé de cette histoire. Voilà. Alors, mais où est-ce que c'est, il y a cette affaire des offrandes ? La paix profonde... Voilà. Donc 24, 11, bon Paul, bon avocat, voilà, je le sais de nombreuses années que tu assures la justice à cette nation, c'est avec confiance que je plaiderai ma cause. Ça s'appelle une captatio benevolentiae. Je sais que tu es un juge honnête et droit, et donc je peux avoir confiance. Tu peux t'en assurer, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté en pèlerinage à Jérusalem. Donc c'est un pèlerinage religieux. Et ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni par la ville, on ne m'a trouvé en discussion avec quelqu'un. Je t'avoue pourtant ceci, c'est en suivant la voie qualifiée par eux de partie que je sers le Dieu de mes pères, gardant ma foi tout ce qu'il y a dans la loi, tout ce qui est écrit dans les prophètes. Ayant en Dieu l'espérance, comme ceux-ci l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, c'est pourquoi, moi aussi, je m'applique à avoir sans cesse une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Là, Luc nous présente un Paul, juif fidèle, hein, gardant sa foi à tout ce qu'il y a dans la loi et les prophètes, ce qui nous rappelle Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Alors, voilà le verset sur lequel a coulé le plus d'encre. Verset 17. « Au bout de bien des années, je suis venu apporter des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. C'est ainsi qu'ils m'ont trouvé dans le temple. Je m'étais purifié et je ne provoquais ni attroupement ni tumulte. Je suis venu apporter des aumônes à ma nation. » C'est le seul verset dans les actes qui pourrait faire penser que Paul amène effectivement une quantité d'argent, ici aumône et implicitement de l'argent. Bon, à ma nation, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est encore un peu jésuite, on est d'accord. C'est-à-dire que c'est pas faux puisque les saints de Jérusalem sont de la nation d'Israël et qu'en prenant le bateau en Grèce, il a dit c'est l'argent c'est l'argent du pèlerinage juif, du temple, etc., pour ne pas payer l'impôt sur les transferts de fonds. Mais enfin, c'est pas pour sa nation, c'est pour les chrétiens de Jérusalem quand même. Bon, donc, voilà le seul verset dans les actes qui pourrait faire plaider que Luc veut faire allusion à la collecte. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que son axe narratif et théologique est complètement différent. Il insiste sur le fait que c'est de son plein gré, mais poussé par l'Esprit Saint, que Paul monte à Jérusalem. Mais notez ceci. Pourquoi Jésus est monté à Jérusalem? Jésus est monté à Jérusalem pour donner sa vie pour son père et pour ses frères, pour l'humanité tout entière, pour vous et pour la multitude, comme il est dit quelque part, c'est-à-dire pour vous, les disciples qui êtes là, et qui représentait Israël, les douze disciples, et pour la multitude, les nombreux, qui représentent toutes les nations du monde. C'est ça qui fait de Jésus à la fois le Messie d'Israël et le Sauveur des nations. Donc, si Jésus est monté offrir sa vie à Jérusalem, c'est bien pour toute l'humanité. Poussé par l'Esprit Saint, voici que je... etc. Bon. Donc, quelque part, Luc dit, Paul, c'est pareil. Il va offrir sa vie pour ces communautés païennes et aussi pour ses frères de Jérusalem, pour tout le monde. Donc là, il y a une espèce d'homologie entre le mouvement de Paul et le mouvement de Jésus. Mais voilà, il y a quand même cette énigme que Luc ne nous explicite pas vraiment, cette affaire de la collecte, sur laquelle Paul se répand longuement dans ses lettres. Alors, oui... Vous avez entendu aussi en passant que Luc laisse entendre que Paul doit aller, et c'est Jésus lui-même qui le dit, à Rome après. Donc, comme ça vient d'un personnage crédible du récit, Jésus, ressuscité, Paul va aller à Rome. Donc là aussi, cet aspect pour moi vers 95 est clair, que Paul a rendu témoignage à Jésus à Rome, comme c'est annoncé par Jésus lui-même ici. Et le témoignage suprême, c'est le même mot, vous savez, martus, c'est le martyr. Bon, donc, il y a une très 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 forte probabilité que Paul soit mort martyr à Rome. Bon, Luc lit ça comme un mouvement qui ne peut être comparé qu'au mouvement de Jésus montant librement à Jérusalem. Alors vous me direz, Jésus n'a pas été arrêté avant Jérusalem, il est monté librement à Jérusalem, se jeter dans la gueule du lion, tandis que Paul est arrivé à Rome enchaîné. D'accord, mais ensuite, il nous le présente en résidence surveillée pendant 2 ans, dans une maison à Rome, assez libre. Sous-entendu, si Paul avait voulu s'évader, c'était pas très compliqué. Je crois que je vous ai déjà parlé des différents types de prisons à l'époque. Bon, vu le statut de Paul et ses moyens et ses connaissances, il aurait sans doute pu, dans une période de plusieurs années, comme beaucoup de gens notables, de citoyens condamnés, c'est quand même l'exil qui était la solution, le bannissement qui était la solution, la fuite la plus simple. Les Romains n'avaient pas forcément des désirs de bain de sang, même les empereurs. Bon. Donc tout ça pour dire que pour Luc, et je pense qu'il a fondamentalement, spirituellement et théologiquement raison, c'est bien spirituellement que Paul monte à Jérusalem, et ce sera spirituellement qu'il voudra donner sa vie pour le Christ comme martyr à Rome, alors qu'il aurait pu l'éviter.
Pas
À Césarée, à Rome d'abord, oui. Alors, à l'appui de cette remarque, on peut dire que quand Pierre est arrêté au chapitre 12, tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu ardemment. 12, 5. Donc, quand Pierre est arrêté à Jérusalem, toute l'Église se met à prier. Et pour Paul, on n'a pas ce verset-là. Alors, sept contrats, comme dirait saint Thomas, on peut dire, oui, mais bon, Paul n'est pas de la communauté de Jérusalem, justement, et mais il y a tous les autres aussi. Hein. Il y a une solitude. Paul devient tel Jésus dans sa passion, il n'y a plus personne. On l'a laissé seul. Paul affronte seul les différents juges. Et de fait, ce qui le sauve du guet-apens, c'est son neveu juif, hein, pas un chrétien. Alors, la question très débattue, c'est entre 21-26 et 21-27 des Actes. Alors, le jour suivant, Paul amena, donc, vous savez, Jacques lui dit plein de choses, lui rappelle le concile de Jérusalem auquel il était censé être présent. Donc, fais donc ce que nous allons te dire. Et Paul, bouche cousue, obéit. Paul emmena donc ses quatre hommes, et après s'être joint à eux pour la purification, il entra dans le temple, où il annonça le délai dans lequel, les jours de purification terminés, on devrait présenter l'oblation pour chacun d'entre eux. Les sept jours touchaient à leur fin, quand les Juifs d'Asie, l'ayant aperçu dans le temple, ameutèrent la foule et mirent la main sur lui, en criant « Homme d'Israël, au secours, le voici l'individu qui prêche à tous et partout, contre notre peuple, contre la loi et contre ce lieu ». Et voici encore qu'il a introduit des Grecs dans le temple et profané ce lieu saint. Précédemment, en effet, ils avaient vu l'Éphésien Trophime avec lui dans la ville, et ils pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. On en déduit que Trophime n'est pas juif. Donc il pouvait... Bon, alors, dans le temple, sous-entendu, dans le temple, au-delà du parvis des gentils, parce qu'après tout, Trophime, comme vous et moi, pouvait parfaitement entrer dans le parvis des gentils. Vous savez qu'on a retrouvé, il y a quelques décennies, un des panneaux en pierre, qui avait, au-delà du parvis des gentils, sur la balustrade, qui disait, voilà, tout homme passera cette ligne, hein, alors je ne sais plus comment c'est le texte, tout homme, tout non-juif qui passera cette ligne, portera sa propre condamnation à mort. Vous avez actuellement à la Mecque, vous avez une zone, si vous passez et que vous n'êtes pas musulman, normalement, vous pouvez être mis à mort ipso facto. Vous devez le savoir, c'est marqué. Bon. Donc, ce qui est un peu étrange, c'est que, en fait, voilà, pour vous dire les choses, certains font l'hypothèse que le récit laisse entendre, poussant ainsi le parallèle avec Jésus jusqu'au bout, que Paul a été tout simplement trahi, livré. Comment ces Juifs d'Asie ont pu aussi vite le repérer? Vous voyez, un Juif avec quatre autres Juifs faisant un rite de purification parfaitement dans les clous, et Paul insiste qu'il n'a donné lieu à aucune espèce de... D'ailleurs, quasiment, il n'a rien dit depuis qu'il est arrivé à Jérusalem. Donc, donc certains disent, Luc laisse entendre que Paul a été trahi. Alors, trahi par qui? Par les faux frères dont Paul a parlé plusieurs fois. Alors, pas par Jacques, non, n'accablons pas Jacques. Non, non, on y soit qui mal y pense. Pas Jacques, mais enfin, bon, des extrémistes. Jacobites, on va dire, ou judéo-chrétiens extrémistes. Qui ont trouvé là une occasion de le mettre dans la gueule du loup et ensuite, enfin, de le repérer et de dire, ben, c'est lui, il sera avec quatre hommes, etc. Bon. Le texte ne le dit pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le texte ne dit pas, Paul a été livré. Mais enfin, le parallèle avec Jésus que Luc construit, hein, poussé par l'Esprit, trois annonces de la Passion, Paul qui monte à Jérusalem comme Jésus monte à Jérusalem. Il se trouve que Jésus aussi a été trahi. Donc, on pourrait en déduire que Paul aussi a été trahi. Mais Luc ne va pas jusque-là, de même qu'il ne va pas jusqu'à dire que la collecte n'est pas acceptée. Il n'en parle pas. Alors, Point commun entre la lettre aux Romains et ces petits versets qu'on vient de lire. Voilà l'individu qui prêche à tous et partout contre notre peuple, contre la loi et contre ce lieu. On peut dire, le parallèle, c'est que dans la lettre aux Romains aussi, Paul, à deux ou trois endroits, laisse entendre qu'il se défend contre des rumeurs qui l'accusent. Voilà, Paul a une réputation. Alors, là où il nous faut éviter la lecture luthérienne qui a dominé pendant 4 siècles, c'est qu'il y a une différence entre les juifs et les judéo-chrétiens. Là, c'est une critique des juifs non-chrétiens dans Jérusalem. Dans la lettre aux Romains, Paul parle de chrétiens qui sont critiques de Paul et qui l'accusent d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas tout à fait les mêmes critiques, ce n'est pas les mêmes personnes. Par exemple, en Romains 3:8, c'est le cas le plus net. Bon. Ou bien, comme certains nous accusent outrageusement de le dire, devrions-nous faire le mal pour qu'en sorte le bien ? Cela mérite leur condamnation. Donc, comme certains nous accusent de le dire. Donc, il y en a qui accusent Paul. En disant notamment, ah oui, Paul, il a une théologie, vous savez, c'est très pratique, il dit, péchez donc, la surabondance de Dieu est plus grande que le péché, donc allez-y franchement, et comme ça, il y aura une plus grande grâce. Alors là, Paul, il se fâche en disant, c'est pas du tout ce que je dis. Mais pas du tout. Bon. Enfin, ces gens-là, c'est des chrétiens, c'est pas des juifs. Donc, le point commun, c'est que, de même que Luc nous décrit à la fin des Actes un Paul durement attaqué par les juifs de Jérusalem comme un traître à la loi, et que Luc le défend, toute la présentation de Paul par Luc vise à dire « Paul n'est pas cet extrémiste que décrivent les Juifs-là, il ne renie pas ses origines, donc il fait le vœu dans le temple, voilà, il ne pousse pas les Juifs à renoncer à leur identité propre, on va dire ethnique. » Donc Luc continue à tendre la main aux Juifs de la fin du 1er siècle, d'une manière remarquable. Et dans la lettre aux Romains, Paul se défend également en présentant de façon plus complète, plus nuancée, plus précise, plus détaillée, ce qu'il enseigne dans ses autres lettres. Donc, c'est une apologie, c'est une défense à la fois de sa théologie, de ce que Paul lui-même appelle « mon évangile ». Non pas qu'il y en aurait d'autres, mais enfin sa manière propre d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, que lui appelle évangile. Vous avez un petit groupe d'exégètes qui dit « c'est Paul l'inventeur de l'évangile ». Du mot « évangile » au singulier, « to euangelion », pour parler de la bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité et est venu nous sauver et nous donner le pardon de Dieu. Bon, ça là, c'est Paul qui a dit ça, ça s'appelle l'évangile. Parce que le mot évangile, je ne sais plus, sur 66 fois dans le Nouveau Testament, ça doit être 58 fois chez Paul et il y a 4-5 fois chez Marc, mais dans un sens très paulinien, et puis une et deux fois dans Luc, dans les Actes. Hein. Bon, une fois dans la bouche de Luc, de Paul, une fois dans la bouche de Pierre. Donc, évangile semble un terme très paulinien. Alors, qu'est-ce qu'ils annonçaient les autres apôtres ? Ils annonçaient ce que nous appelons l'évangile, bien sûr, parce que Paul, il a gagné sémantiquement. Aujourd'hui, nous appelons l'évangile, au sens de, pas seulement le texte, mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, il défend son évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, comme il dit, mais bon. C'est-à-dire sa manière propre d'annoncer l'évangile, en tant qu'il lui a été révélé par le Christ sur la route de Damas, en tant que cet évangile est un évangile destiné à tous les hommes et notamment aux païens, moi je suis envoyé d'abord aux païens et je leur dis que ce salut du Christ pour eux ne leur impose aucune obligation. Rituel juif. Bon. Vous savez que les Actes des Apôtres, Luc nous présente 3 petites exceptions, Concile de Jérusalem, que Jacques rappelle juste là, bon, se garder des viandes immolées aux idoles, bon, vous savez que c'est un thème traité dans les lettres de Paul. Est-ce que Paul dit « il ne faut pas les manger » Qu'est-ce qu'il dit, Paul ? public. Monsieur Paul est un peu partagé. Il dit en gros, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas un péché, puisqu'il n'y a pas d'idole, et tout ça. Maintenant, ne va pas faire chuter ton frère. C'est ce qu'il dit d'ailleurs longuement en Romains 14, 15. Donc, la position personnelle de Paul est effectivement que c'est adiaphoron, c'est indifférent pour les chrétiens. D'autant que dans beaucoup de villes, la boucherie, c'est le temple, puisque c'est là que sont sacrifiés les animaux. Donc, tu vas au marché, tu achètes de la viande, peu importe d'où elle vient. Maintenant, pour certains, ça semble cautionner l'idolâtrie. Donc, si dans la communauté, ceux qu'il appelle les faibles sont choqués par ça, tu vas ne pas le faire. Il dit en gros, bah, s'il faut être végétarien, il faut le faire. Ce n'est pas pour une question de viande ou de poisson, de nourriture, que je vais diviser la communauté. Ce qui n'est pas exactement la position ici. Bon, deuxièmement, des chairs étouffées. Bon, alors c'est un peu lié, c'est la question de la manière dont la viande a été immolée. Du sang, bon, Paul n'en parle pas. Et des unions illégitimes. Alors, est-ce que Paul en parle, des unions illégitimes ? Où ça ? Un Corinthien, a priori, un Corinthien 6, si ma mémoire est bonne, 5 ou 6, j'ai un petit doute. Un 5. On entend parler que d'inconduite parmi vous. Là, il est un peu vache, c'est pas vrai, parce qu'il leur dit plein de belles choses aux Corinthiens. Et d'une inconduite telle qu'il n'en existe même pas chez les païens. C'est à ce point que l'un d'entre vous vit avec la femme de son père. Ça, c'est pas bien. Bon, ça on peut dire, ça c'est une union illégitime. Notez bien que c'est pas sa mère, bien évidemment. C'est une concubine de son père dont qu'il a reçu en héritage. Bon. Alors ça, dans le cadre juif, c'est absolu. Un homme ne peut pas avoir la même femme que son père. C'est très grave. Donc c'est ça, une sens, je pense, de union illégitime, au sens où Matthieu le rajoute dans la parole sur le divorce en Matthieu 19. Hein. Vous savez, tout homme qui épouse, etc., sauf en cas d'union illégitime, on traduit dans la version liturgique, c'est-à-dire, évidemment, si, là, il n'y a pas divorce, c'est comme, bon, il n'y a pas divorce parce qu'il n'y a pas mariage. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible depuis le départ. Donc, voilà. Donc on peut dire, oui, quelque part, je pense que la règle d'acte 22 est pratiquée par Paul. C'est-à-dire, il dit aux païens, vos mariages sont saints, reconnus et sanctifiés, ce qui est la position de l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui, quels que soient les mariages dans le monde, entre deux personnes, enfin hommes et femmes, ils sont valides. A priori. Maintenant, s'il y a un motif d'union illégitime, alors là, mettons le oncle et neveu ou tante et oncle et nièce et tante et neveu, là non. Là on peut dissoudre le mariage et donc, enfin dire il n'y a pas mariage et donc le neveu peut épouser n'importe qui. Bon, enfin, dans le Seigneur a priori. Donc, dans Romains, Paul affronte aussi des contradicteurs. Et c'est pourquoi, dans cette lettre, il nous livre vraiment sa pensée. Il peut se permettre d'être plus... Enfin, il est obligé de ne pas être elliptique dans la mesure où ces gens-là le connaissent moins que les communautés qu'il a fondées et qui le connaissent par cœur, évidemment. Moi, je ne crois pas que Paul, il nous faisait un sermon original par jour. Il est comme tout le monde. Il a un certain nombre de thèmes auxquels il tient, Abraham comme père des croyants, etc. Donc, il reprend un certain nombre de motifs régulièrement. Alors, la preuve, maintenant, je vous dis ça, il faut que je le prouve. Prenons la partie de Romains 12, 13, c'est-à-dire la partie exhortative, le début de la partie exhortative. La lettre aux Romains, vous avez 1 à 8, 9 à 11 et 12 à 15, pour faire simple. 1 à 8 est la première grande partie théologique sur le baptême, la vie dans l'esprit. 9 à 11, on l'a vu, c'est le mystère d'Israël. Et 12 à 15, 12, 13, 14, 15, quand même 4 chapitres, c'est la section morale, parénétique ou paréclétique de consolation. Donc, voilà. Il reprend tous les grands thèmes qu'il a développés dans les lettres précédentes. Romains 12, 3, 7. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous. De même que notre corps en son unité possède plus d'un membre et que ses membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part membres les uns des autres. Mais pourvu de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Si c'est le service en servant, l'enseignement en enseignant, l'exhortation en exhortant. Ben, ça reprend 1 Corinthiens 12, ça. On connaît déjà ce discours de Paul, à la fois sur, d'une part, le corps chrétien, la communauté chrétienne comparée à un corps, avec plusieurs membres, et l'idée que chaque membre a des charismes, chacun a un charisme différent, et que tout le monde doit se mettre au service les uns des autres. Bon. Romains 13, 8. Bon. N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel, car celui qui aime son prochain a de ce fait accompli la loi. En effet, le précepte, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres, se résume en cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On l'a entendu en Galates 5, 14. Une parole accomplit toute la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon. Notez que, là aussi, petite énigme, Paul ne nous dit pas comme Jésus vous l'a rappelé et que, comme vous le savez bien. Non, non, il s'appuie sur l'Écriture. 13, 11, 14. Nous savons en quel moment nous vivons. C'est l'heure de vous arracher au sommeil. Le salut est maintenant plus proche de nous qu'au temps nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est arrivé. Laissons les œuvres de ténèbres, revêtons les armes de lumière. Comme il sied en plein jour, conduisons-nous avec dignité. Point de ripaille ni d'orgie, point de luxure ni de débauche, point de querelle ni de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bon, ben là, il y a un rappel sur le jour du Seigneur qui est très proche de 1 Thessaloniciens 5, donc de sa première lettre, écrite 10 ans avant, ou 8 ans avant. Un rappel de point de ripaille ni d'orgie qu'il a déjà dit aux Galates et ailleurs. Bon. Donc, le développement sur les faibles et les forts, eh bien, il en a parlé justement sur la question des viandes. Donc, 14, 13, Romains 13, 14, 13. Finissons-en donc avec ces jugements les uns sur les autres. Jugez plutôt qu'il ne faut rien mettre devant votre frère qui le fasse trébucher ou tomber. Je le sais, j'en suis certain dans le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi. Mais seulement pour celui qui estime un aliment impur, en ce cas il l'est pour lui. En effet, si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne te conduis plus selon la charité. Ne va pas avec ton aliment faire périr celui pour qui le Christ est mort. Bon. N'exposez donc pas votre privilège à l'outrage, car le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Verset 21, ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande ou de vin et de tout ce qui fait trébucher ou tomber ou faiblir ton frère. Bon, tout ça, il l'a dit déjà dans sa discussion sur les viandes consacrées aux idoles. Donc en gros, Paul reprend tout ce qu'il a dit ailleurs. L'unique exception, et je vais y revenir, c'est son développement de théologie politique sur les autorités civiles et sur les impôts. Romains 13, 1 à 7. Mais précisément, on peut argumenter que cet ajout, dont Paul n'a jamais parlé avant, est lié à une défense qu'il fait de sa position et anticipe une critique possible de sa théologie. Bon, Paul répond en fait à deux accusations indirectes. D'une part, celle qui propose un évangile au rabais, la grâce de Dieu à bon marché. Hein, Romains 3, 8, Paul dit non. Non, je ne suis pas laxiste. Voilà, il y a quelques personnes, vous savez, qui disent que le pape François, ça, c'est un peu laxiste parce qu'il ne répète pas tous les matins que l'avortement et tout ça, c'est pas bien. Bon. Donc, Paul, il dit un peu la même chose. Il dit, Paul, non, je suis très exigeant moralement, c'est pas parce que j'en parle pas tout le temps que bon. Tous ceux qui prétendent que je suis laxiste me calomnient, j'exige la plus grande rigueur morale des baptisés de mes communautés. Et ceux qui m'entendent savent que je suis tout sauf indulgent avec les pécheurs. Donc, ne me faites pas ce faux procès que je suis un vendeur de grâce à bon marché, comme dirait Dietrich Bonhoeffer. Donc, Paul, là, il se défend vigoureusement. La seule chose que je dis, dit-il, c'est que le baptême fait de chaque baptisé une création nouvelle, que rien n'est exigé au préalable ou après le baptême comme exigence supplémentaire de type rituel. Voilà. Il s'agit de mener sa vie selon l'Esprit Saint, d'accueillir l'Esprit Saint, point. Voilà. Et j'ai jamais dit que c'était facile, et j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas non plus d'ailleurs du péché dans la vie des chrétiens. Il suffit de lire mes sections parrainétiques. Si Paul est obligé de dire qu'il ne faut pas faire des beuveries et des ripailles, ben c'est que ça existe. Ben, je veux dire, c'est mathématique. Donc Paul, il n'est pas non plus irréaliste, il ne plane pas à 3000. Quand il dit dans Romains 6, vous êtes mort avec le au Christ, vous êtes mort au péché avec le Christ, bon, désormais, en gros, on vit au ciel, dans l'esprit, tout ça. Alors, on va dire à Paul, doucement, doucement. Et Paul, il dit, oui, très bien, moi, j'essaye de marquer le coup, quand même, le baptême, ça fait une différence. Bon, il y a l'Esprit Saint, il y a la vie spirituelle. Maintenant, je sais très bien qu'il y a du péché dans la vie des chrétiens. Je suis un pasteur, je ne suis pas naïf. Bon. Maintenant, il s'agit d'orienter vers l'axe. Bon. Donc, Paul ne nie pas l'importance de la réception humaine, de la réponse humaine à la foi. Bon. Voilà. Alors, l'autre accusation, donc ça c'est la première accusation, l'autre accusation, telle qu'on peut la reconstituer, c'est sans doute que Paul est un rebelle, un agitateur. Vous savez, on dit qu'il a été en prison 2 ans à Éphèse, vous vous rendez compte, ça doit être un dangereux révolutionnaire. Bon. Donc, dangereux révolutionnaire, Paul va répondre avec Romains 13, 1 à 7. Alors certains, dans la théologie protestante et catholique, aurait bien aimé que Paul n'écrive pas Romains 13, 1 à 7, parce que ça a eu un impact, malheureusement, assez terrible dans les années de chrétienté. Je vous rappelle ce passage que vous lisez tous les matins, si vous êtes fonctionnaire aux impôts. « Que chacun se soumette aux autorités en charge. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent sont instituées par Dieu. Qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre, la taxis établie par Dieu. » Et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. En effet, les juges ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Les juges romains. Donc en gros, Paul, il dit, moi je ne suis pas un sectaire fanatique. Les juges romains, vous avez tué quelqu'un, vous passez en jugement, ben, vous allez être jugé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais le truc intéressant par rapport à Qumran, c'est qu'il ne dit pas, les juges romains sont par définition injustes. Non, le bien, le mal, on parle un langage que les gens comprennent. Les juges, ils sont plutôt là pour condamner ceux qui font des actions coupables et relaxer les innocents. Veux-tu n'avoir pas à craindre l'autorité? Fais le bien et tu en recevras des éloges. Fabuleux. Car elle est un instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains si tu fais le mal, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte le glaive des juges romains, le gladium. Elle est un instrument de Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal. Aussi doit-on se soumettre, non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience. Il va très très loin. Se soumettre aux autorités romaines. N'est-ce pas pour cela même que vous payez les impôts? Alors là, voilà la phrase clé. Il y a entre 54 et 58, enfin notamment vers 58-59, ça fait 4 ans que Néron est en charge. Néron a pas mal augmenté les impôts, il y a une agitation anti-impôts. Ça, c'est toujours populaire. Et on peut penser que des chrétiens un peu eschatologiques, un peu bouillants à Rome, se disent, attendez, on va quand même pas en plus payer des impôts à cette espèce d'empereur fou qui fait des fêtes, qui dépense l'argent pour faire des fêtes de gladiateurs pas possibles, etc. Bon, alors vous trouvez un pieux motif pour pas payer d'impôts. Là, c'est génial. Alors Paul, il dit en passant, n'est-ce pas pour cela même que vous payez les impôts? Sous-entendu, vous payez bien les impôts, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord. Bon. Non, mais ça sert à l'avortement, à imprimer des manuels sur l'ABCD du genre, je sais pas quoi, donc je paye pas mes impôts. Paul, il dit, attendez, les impôts, ça sert pour la police, pour le machin, bon, donc on paye les impôts. Car il s'agit de fonctionnaires qui s'appliquent de par Dieu à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû, petite allusion peut-être à rendez à César ce qui est à César, rendez à chacun ce qui lui est dû, à qui l'impôt, l'impôt, à qui les taxes, bon ça c'est une affaire de différence entre taxes directes et indirectes dans le système romain, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Donc, Paul en gros il dit, bon, vous voulez faire de moi un révolutionnaire, rebelle, eh ben prenez ça dans les gencives. Parce que ça, c'est quand même pas un texte de révolutionnaire. Donc, en même temps, le christianisme est-il révolutionnaire? Évidemment, oui. Et pas au sens où l'entendent les zélotes ou l'entendent certains. Au sens où on va prendre les armes, concrètement, contre l'autorité. Donc, là, ça pose des problèmes redoutables, hein, dont vous êtes bien conscients. Par ailleurs, Paul va parler du prince de ce monde. Et même, expression terrible, du dieu de ce monde, Satan. Donc, il n'est pas naïf du tout sur le fait que les autorités civiles peuvent être au service du péché et du diable. Là, on touche un point, bon, que j'ai beaucoup martelé depuis un an et demi à cause de la question du mariage pour tous, mais on touche un point de théologie fondamentale, judéo-chrétienne, patrimoine commun des juifs, disons tendance dominante, Alexandrie et le courant rabbinique, pas forcément Qumran, et du grand christianisme, pas les sectes variées et diverses de l'Antiquité. Fondamentalement, la première affirmation de foi porte sur ceci. Dieu a créé le monde et il l'a créé bon. C'est le premier point. Mais il y a plein de mal, il y a plein de péchés, il y a des barbaries, tout ce que vous voulez. Mais le premier mouvement, sinon vous tombez dans le manichéisme. Satan est aussi fort que Dieu. Il y a du démon, il y a du Satan, il y a du péché, il y a des problèmes, il y a de la barbarie et des génocides et tout ce que vous voulez. Mais la première parole, c'est il y a un ordre voulu par Dieu dans la création et cet ordre est bon. La culture, l'organisation politique, la littérature, les rites, les mythes, la poésie, tout ça fondamentalement c'est bon. Ça c'est le regard de la grande église, toujours poursuivi par l'église catholique et l'église orthodoxe. Et l'église protestante, au moins dans les églises principales, certains groupements évangéliques peuvent avoir un regard beaucoup plus pessimiste sur le monde, mais bon voilà, et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs par moments. Donc l'affirmation première porte sur Dieu a créé le monde. Maintenant, et Dieu a vaincu les puissances des ténèbres et les puissances mondaines sur la croix. D'un autre côté, il faut reconnaître qu'il y a dans le monde du mal, du péché, des structures de péché, de l'injustice, de l'oppression. Et quand même, qui le nierait? Qui le nierait? Donc, il faut tenir les deux choses. Que nous devons participer au jeu de la vie en commun, avec la conviction de foi, pas seulement pratique, que nous pouvons dialoguer avec tous nos frères les hommes parce qu'ils sont créés par Dieu, avec une raison créée par Dieu. Et ça, c'est une ligne qui a été portée très forte par Jean-Paul II, qui est dans l'ADN du catholicisme, et auquel on ne peut pas renoncer. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand on fait une lettre sur le mariage pour tous, comme l'ont fait les évêques, on argumente en raison, en s'adressant aux autres, en disant « voilà pourquoi on pense que c'est pas bien ». Pas, il est écrit dans la Bible que non, parce que ceux qui ne sont pas croyants vont dire « on s'en fout, nous, ça ». Ce n'est pas un texte qu'on reçoit. Donc, on s'adresse à l'intelligence des gens. Et puis, en face des gens, ils ne vont pas être d'accord. Ils ne vont pas être convaincus. Ça nous surprend? Eh bien, non. Ça ne doit pas nous surprendre non plus. Alors, c'est là où nos frères évangéliques ont raison de dire « on peut s'illusionner durablement sur le bien ». On peut être dans l'obscurité sur le bien. Et ils rappellent aux catholiques, il ne faut pas être trop optimiste, ingénu, naïf, de croire... Mais je vais vous expliquer en 10 minutes pourquoi l'avortement, c'est vraiment pas bien. Et puis alors, vous expliquez 10 minutes, puis la personne en face vous dit, mais moi je suis pas d'accord. Alors là, vous dites, ah, le brave étudiant catholique, je comprends pas quand même. Il a sa raison, moi j'ai ma raison, quand même, il a été créé par Dieu avec sa raison, ça devrait fonctionner, le logiciel, ça ne marche pas. Alors, là, le catholique très Jean-Paul IIen, il peut être un peu embarrassé. Non, mais je comprends pas quand même. Un peu rationaliste. On a tout expliqué bien clairement, et en face, on n'est pas d'accord. Alors là, l'évangélique, il vient, à juste titre, rappeler, mais quand on ne connaît, quand on n'a pas la foi, quand on ne croit pas en la résurrection, quand on ne connaît pas Jésus, quand les paroles de Jésus n'ont pas d'impact sur ma vie intellectuelle et morale, ben c'est pas étonnant que je sois quelque part dans les ténèbres sur beaucoup de choses. C'est pas étonnant. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres. Alors, le petit défaut de l'évangélique, c'est qu'il va dire, du coup, tout votre travail intellectuel, rationnel, là, des catholiques, ça sert à rien. La seule chose qui compte, c'est d'aller voir les gens et de leur faire rencontrer Jésus. Tant qu'ils n'ont pas rencontré Jésus, ils ne pourront pas voir la vérité. Donc, il faut annoncer Jésus. C'est quand même pas faux. Il faut annoncer Jésus. Mais pas que. Le témoignage rendu à Jésus, c'est Paul Malin, là, à Jérusalem, qui argumente sur la résurrection, qui ne parle pas de Jésus. De temps en temps, dans nos sociétés, le témoignage rendu à Jésus consiste à avoir un témoignage rationnel, intelligent, qui va montrer à ceux qui voient dans les croyants en général, et les chrétiens en particulier, des illuminés irrationnels, Des gens qui sont rationnels, argumentés, et qui argumentent pour le bien commun. Ça peut être aussi un témoignage rendu à Jésus, ça. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, et ça, à l'intérieur même de l'Église catholique, on peut avoir des groupes différents qui sont plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. C'est complémentaire comme attitude théologique. Donc, Paul de Romains 13, là, c'est le Paul de Philippiens 4-8, qui dit « Tout ce qu'il y a de juste, de noble, de bon, d'honorable, de vrai, de digne d'être loué, tout cela, faites-le. Tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. » Ah bon? Parce que le langage du bien et du mal, on l'a en commun avec les autres hommes, avec les incroyants? Ben en partie. En partie. En partie, les notions bien-mal, on les partage avec toute l'humanité. Voilà ce que dit Paul et toute la tradition de la grande Église. Maintenant, ce même Paul, très catholique, hein, un peu jésuite sur les bords, il est aussi capable d'écrire 2 Corinthiens 6. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ne formez pas d'attelage disparate avec les incroyants. Quel rapport entre la justice et l'injustice? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quelle entente entre le Christ et Satan, Béliard? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle? Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles? Et il va dire plus loin, quoi, vous allez chez des juges païens pour vos problèmes? Mais c'est une honte, réglez-les dans la communauté. Bon. Ce qui peut donner dans certaines sectes évangéliques protestantes les pires dérives, hein, le pasteur décide pour tout. Dès que deux fidèles ont des problèmes, alors on va voir le pasteur, il décide, mais il ne connaît pas forcément le droit, bon, ça tranche. Bon, alors en même temps, qu'il y ait beaucoup de catholiques qui fassent des procès à leurs frères pour 3 mètres carrés de terrain à Garges-lès-Gonesse, c'est pas top non plus comme témoignage évangélique. Ou qu'il y ait dans tant de familles des discussions sur les héritages que vous connaissez aussi bien que moi. Voilà. Donc quand le cardinal 23 a laissé sa charge et a parlé aux évêques, lisez ce discours en mars, avant d'être remplacé par Mgr Pontier, tirant un peu le bilan de l'affaire de la manif pour tous, là. Moi, dans lequel je trouve qu'ils ont été remarquables, et lui en premier remarquable, de justesse pour être là, tout en n'étant pas en première ligne. Bon. Il a dit, voilà, alors on fait des... Alors voilà, tout le monde est chaud bouillant, là, on est contre la manif pour tous. Bon, très bien. On est contre le mariage pour tous. Et alors, avec son humour, parce qu'il a pas mal d'humour, hein, le cardinal 23, il a dit, ah oui, non, mais bien sûr, parce que chez nous, chez les catholiques, naturellement, l'avortement, ça n'existe pas. On ne sait pas ce que c'est. Le divorce, bien sûr, les mariages catholiques, ça divorce jamais. C'est bien connu. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, très ironique. Il dit, okay, bon, attendez, doucement les basses. Il faut commencer par vivre nos valeurs. Parce qu'on est bien gentil à dire à tous les autres, voilà comment il faut faire. On sait exactement ce qu'on fait. Bon. Donc, ça c'est du bon réalisme pour dire, bon, il faut vivre nos valeurs. D'abord. On va faire la pause quand même. Donc, on reprend à 12. Allez, 13. Donc, une chose qu'on peut dire avec, je ne sais pas si je vous ai un peu perdu avec toutes mes hypothèses sur les actes et Romains, mais bon, commençons par les choses vraiment claires et nettes. Tant les actes des apôtres que la lettre aux Romains ont pour objectif de défendre Paul contre un certain nombre de rumeurs ou d'accusations. Dans les actes, Luc, 30 ans après la mort de Paul en gros, cherche à présenter une image de Paul, on va dire, œcuménique avant l'heure, œcuménique, un Paul qui n'était pas un extrémiste, un Paul qui cherchait la communion entre les églises, un Paul qui a offert sa vie pour la communion entre les églises. Ça, c'est le point majeur. De même que Jésus est monté à Jérusalem offrir sa vie pour tous les hommes, de même Paul est monté à Jérusalem offrir sa vie pour l'union de tous les chrétiens. Voilà, s'il y a une phrase à retenir d'aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi Paul est-il mort? Voilà la réponse. Et je pense que Luc, sur ce point, a vu assez bien, parce que, effectivement, dans ses lettres, Paul ne voulait pas au départ monter à Jérusalem, et il y est allé pour ne pas courir le risque que sa collecte soit refusée, parce qu'il croyait que c'était important, que c'était vital, que ça valait le coup de donner sa vie pour ça. Et dans sa lettre aux Romains, Paul défend sa théologie, défend son évangile, on peut dire, en le représentant le plus sereinement, le plus calmement, le plus longuement possible, en disant implicitement, s'il y a des gens qui me critiquent, ou si vous me critiquez, si des gens viennent chez vous à Rome pour me critiquer, qu'ils me jugent sur pièce. Voilà ce que je dis, voilà ce que j'enseigne à toutes les églises. N'écoutez pas les rumeurs, lisez ce que je dis à la lettre aux Romains, je parle calmement, précisément, voilà ce que j'enseigne. Et je suis un homme de communion, de concorde et d'équilibre. Voilà. Je ne suis ni un laxiste, ni un révolutionnaire, ni un extrémiste, je ne méprise pas les juifs et le judaïsme. Comment moi, fils de pharisien, circoncis le huitième jour, descendant d'Abraham et de la tribu de Benjamin, je ne renie pas mes origines, j'en suis fier. Mais voilà, un chrétien d'origine païenne est tout aussi membre du corps du Christ que moi. Alors, je me suis battu toute ma vie contre les judéo-chrétiens qui faisaient les fiers. Et maintenant, j'apprends qu'il y a les pagano-chrétiens qui font les fiers. C'est faux pour les uns, c'est faux pour les autres. Soumettez-vous les uns aux autres dans un esprit évangélique en ayant les sentiments du Christ Jésus. Je paraphrase Philippiens. Donc voilà, Paul se défend contre un certain nombre de rumeurs et d'accusations. D'où l'hypothèse formulée par Bornkamp dans les années 60. Alors, c'est une hypothèse, elle est un peu provocatrice, c'est une hypothèse, mais je la trouve très séduisante intellectuellement et spirituellement. Qu'est-ce qu'il dit, Bornkamp? Bon, d'abord, il y a une communauté à Rome. Très bien, ça, tout le monde sait qu'il y a une communauté à Rome depuis le début, quasiment. Alors, qui l'a fondée? Réponse, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais a priori, peut-être aucun apôtre clairement identifié. Tant Pierre que Paul sont arrivés à Rome après. Alors, peut-être qu'il y a eu un proto-Apollos, un Tartampion, qui a le premier. Bon, enfin, on ne sait pas. Et actuellement, alors d'un point de vue historique, la plupart des historiens pensent que j'allais dire, la communauté de Rome, elle a grandi tout de suite, quoi, parce qu'il y avait tellement de commerce, d'échanges entre Césarée maritime, Alexandrie et Rome, que des chrétiens, peut-être des esclaves chrétiens, sont très vite arrivés à Rome. Donc elle a grandi, j'allais dire, sui generis, comme ça, de bric et de broc, très vite. Apparemment, au moment où Paul écrit, on va reprendre Romains 16, au moment où Paul écrit, elle est déjà assez substantielle. Alors, qu'est-ce qui est certain? Paul, en fait, il va à Jérusalem. Il le dit dans Romains, et nous le savons par acte. Et alors, si vous voulez, juste avant de monter à Jérusalem, il écrit une lettre de 16 chapitres aux Romains. Je veux aller en Espagne après, j'aurai besoin d'une chambre chez vous 15 jours, donc je vous écris 16 chapitres. On a envie de dire, un peu disproportionné quand même. Donc, quelle est cette hypothèse? C'est de dire, le véritable destinataire de la lettre aux Romains, c'est la communauté de Jérusalem. La lettre aux Romains, c'est l'ambassadeur écrit de Paul. Ça va prendre plusieurs mois, ce voyage. Parce que Paul, il n'est pas idiot. Il sait très bien qu'à Jérusalem, et dans tout l'Orient d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui lui en veulent. Et qui lui en veulent vraiment. Ceux qu'il appelle dans ses lettres les faux frères. Ceux qu'il accuse d'annoncer un mauvais évangile, un évangile au rabais, le pas le bon, etc. Bon. Et que, vu que ça fait des années et des années et des années qu'il n'est pas allé à Jérusalem, il ne sait pas trop qui sera vivant de ceux qu'il a rencontrés à Jérusalem, de ceux qu'il a salués, Jacques, Képhas et les autres. Qui sera là à Jérusalem? Il ne sait pas trop. Bon. Donc l'idée, ça serait que la lettre aux Romains serait en quelque sorte l'ambassadeur écrit de Paul. Il sait qu'en écrivant à Rome, la lettre parviendra quelques semaines plus tard, si elle est copiée, à Jérusalem. Et donc, elle aura le même rôle à Jérusalem que ce qu'il veut à Rome, c'est-à-dire souligner sa théologie, le défendre des accusations d'être contre la loi, comme il dit en Romains 3. Est-ce que je suis contre la loi, moi ? Pas du tout. Hein, Romains 3. Voilà. Est-ce que par la foi, nous privons la loi de sa valeur, 3.31 ? Bien sûr que non, nous la lui conférons. Donc, il n'est pas, comme on dit en théologie, anomiste. On dirait aujourd'hui anarchiste. Enfin, moi, je ne suis pas contre la loi. Je n'ai jamais dit qu'il fallait commettre l'adultère, voler son prochain. Tout ça, ça reste parfaitement valable. Et puis, d'ailleurs, bon, sur l'affaire qu'il ne faut pas manger de sang, tout ça, moi, je n'ai rien contre. Hein. Enfin, je m'en fous. Ce n'est pas important. Enfin, je suis prêt au compromis sur ces questions-là. Bon, bon. Donc, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Et que donc, ça dit l'angoisse de Paul de, d'être bien accueilli à Jérusalem. Et donc, son souci de la communion des églises. Voilà. Paul, il ne va pas du tout à Jérusalem en disant « Bon, j'amène de l'argent, ils le prendront pas, ils feront bien ce qu'ils veulent. De toute façon, moi, ce n'est pas mon problème, j'ai reçu ma mission, j'ai mes églises, j'ai reçu ma mission du Christ, chacun son chemin, et voilà. » Pas du tout. Donc, si jamais on l'accuse, hein, cet homme parle contre la loi, contre le peuple et contre ce saint lieu. Eh bien, voilà. Vous savez, Paul, ah non, c'était un juif, un pharisien et tout. Mais alors, il a renié tout ça. Ah là là, il renie son passé. Maintenant, il méprise le judaïsme, il méprise les juifs. Il ne s'intéresse plus qu'aux païens, etc., etc. Alors, Paul, il dit, je dis la vérité dans le Christ, j'éprouve une grande tristesse, une douleur incessante en mon cœur. Les fils d'Israël, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses, les patriarches, de qui le Christ est issu selon la chair. Bon, c'est mes frères. Qu'est-ce qu'on va raconter des choses comme ça ? Je renie pas du tout mon peuple, mes frères. Bon. Donc, un peu sur tous ces plans, bon, Paul se défend. Donc, je trouve cette hypothèse, elle est... bon, alors, j'en sais rien, elle n'est pas prouvée, mais elle donne du poids aussi au scénario que construit Luc et à la cohérence de la vie apostolique de Paul. 4 ans plus tôt, aux Galates, Galates 3, plutôt Galates 2. Bon, Galates 1, 2, c'est très précieux, parce que Paul donne beaucoup d'éléments biographiques pour se défendre. Bon. Donc, il dit, évidemment, il insiste que son évangile, comme il dit, bah, c'est Dieu qui lui a révélé. Effectivement, il n'a pas connu Jésus-Christ par l'intermédiaire d'un homme. Ça, c'est sûr. Après 3 ans, je suis monté à Jérusalem visiter Képhas et je suis demeuré près de lui 15 jours. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais seulement Jacques, frère du Seigneur. Quand je dis cela, j'atteste devant Dieu que je ne mens pas. Ensuite, je suis allé en Syrie et en Cilicie. Ensuite, au bout de 14 ans, bon, donc 33 plus 3, grosso modo 36, plus 14, 50, bon, on est vers 49, 50. Au bout de 14 ans, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabé et Tite. J'y montais à la suite d'une révélation. Sous-entendu, vous voyez, là, Luc pourrait dire, quand on dit à Luc, j'ouvre une parenthèse, mais si on dit à Luc, t'es gonflé quand même de dire que Paul monte à Jérusalem poussé par l'esprit, alors qu'il amène des sous. Parce qu'il a décidé, quoi, comme nous, on décide un voyage. Luc, il va dire, et Galates 2, j'y montais à Jérusalem à la suite d'une révélation. Je dirais, c'est pas la même montée. Mais Luc peut dire, quand Paul monte à Jérusalem, ben, en général, c'est poussé par l'esprit, c'est à la suite d'une révélation de Dieu. Et je leur ai exposé l'évangile que je proclame parmi les païens. Mais séparément aux notables. Alors pourquoi séparément aux notables, aux colonnes ? Pour éviter la pression de ce groupe de pharisiens, de prêtres convertis qui sont là autour. Il dit oui, mais Paul, mais non, mais si. Paul, il dit écoutez, tout ça s'est fait calmement, entre hommes, à part, dans une petite salle. J'ai été précis, il y avait là les colonnes, et on a pu s'expliquer. Alors voilà les mots décisifs. De peur de courir ou d'avoir couru, en grec, eis kenon, comme la kénose, pour rien, pour du vent, en vain. Alors on a envie de dire à Paul, attends, ça fait 14 ans, 17 ans que tu trimes, tu as converti des milliers de gens, le Christ t'a appelé à être apôtre. Pas rien quand même. Il dit, j'ai travaillé plus que tout le monde. Donc si on fait un concours, qu'on fait des colonnes de baptisés, de futurs baptisés, Paul il peut dire, moi je bats tout le monde dans le concours. Comment il peut dire que si le message qu'il annonce n'est pas reconnu par les autorités de Jérusalem, à commencer par Pierre, Képhas, chef des apôtres, et par Jacques, il aura couru en vain. Moi je trouve cette phrase, elle continue à me stupéfier. Parce que Paul, c'est quelqu'un qui a une ferme conscience apostolique, et une robuste conscience de soi. Il ne se prend pas pour le dernier des apôtres, même s'il dit « je suis le dernier des apôtres ». Vous comprenez ce que je veux dire? Il sait ce qu'il fait. Il dit « tout ce que j'aurais fait depuis 17 ans, si on ne me donne pas la main droite, si on ne me reconnaît pas, c'est pour rien. Ben, » c'est ça la communion des églises. Vous pouvez faire le plus grand travail évangélique du monde, si vous n'êtes pas en communion avec Pierre, je vais parler en catholique avec le pape, c'est du vent, c'est rien. Bon, de Tite, qui est lui-même, mon compagnon, qui était grec, on n'exigea pas qu'il se fît circoncire. Bon, donc déjà, il dit, les apôtres, là, les colonnes, dont les faux frères se revendiquent, ils ne m'ont pas obligé à circoncire Timothée. Et je jure que je ne mens pas. C'était, voilà, il y a des années. Alors maintenant quoi? Maintenant il faudrait se faire circoncire? Bon. Mais à cause des intrus, ces faux frères qui se sont introduits pour espionner la liberté que nous avons dans le Christ, afin de nous réduire en esclavage, des gens auxquels nous avons refusé de céder, ne fût-ce qu'une minute, par déférence, afin que la vérité de l'Évangile demeura parmi vous, trois petits points, ça c'est ce qu'on appelle la figure de l'indignatio, donc vous êtes tellement indigné que vous finissez même pas votre phrase, sachant que cette lettre elle a été réfléchie au mot près. C'est pas que Paul il est en train d'écrire sa lettre puis il finit pas sa phrase. C'est une technique rhétorique pour faire comprendre son indignation. Je finis même pas ma phrase tellement je suis indigné. Donc, de la part de ceux qu'on tenait pour des colonnes, peu m'importe ce qu'alors ils pouvaient être, Dieu ne fait pas exception de personne. À mon évangile, en tout cas, les notables n'ont rien ajouté. Ça, c'est très important. Ils n'ont pas dit, oui, c'est bien, Paul, hein, ton évangile, c'est bien, mais il faut ajouter ça, ça et ça. Alors, Shabbat, circoncision, la nouvelle lune, moi, j'en sais rien, tous ces trucs-là. Non, rien. Au contraire, voyant que l'évangélisation des incirconcis m'était confiée, sous-entendu par le Christ, par Dieu, comme à Pierre celle des circoncis, car celui qui avait agi en Pierre pour faire de lui un apôtre avait pareillement agi en moi en faveur des païens. Bref, reconnaissant la grâce qui m'avait été donnée, Jacques, Képhas et Jean, alors là l'ordre paraît intéressant, donc c'est ça qui fait penser aux historiens que l'homme fort à Jérusalem à ce moment-là, c'est Jacques, pas Pierre. Jacques, Képhas et Jean, ces notables, ces colonnes, nous ont tendu la main droite, la dexia, à moi et à Barnabé, en signe de communion. Nous irions, nous, aux païens, eux à la circoncision. Nous devions seulement songer aux pauvres ce que, précisément, j'ai eu à cœur de faire. Donc, voilà, l'argent que j'amène. J'ai promis de l'amener il y a des années, aux colonnes de Jérusalem, en signe de partage des biens spirituels et matériels, comme il a expliqué en Romains. Comme il expliquera 4 ans plus tard dans Romains 15. Donc montrez que vous êtes bien en communion avec nous, que vous reconnaissez que, comme dit saint Jean, le salut vient des Juifs, donnez donc à la communauté de Jérusalem. Paul a dit, j'ai promis, je vais le faire. Vous comprenez pourquoi cette collecte, elle lui tient à cœur? Pas une affaire qu'il a, il dit les églises de Macédoine ont décidé. Oui, elles ont décidé parce que Paul leur appelait tous les matins au petit déjeuner. Au bout d'un moment, elles ont compris le message, les églises de... Oui, elles ont décidé, comme ça, elles se sont réveillées un jour, elles ont dit, tiens, on va aider Jérusalem. Évidemment, c'est clair que Paul est complètement derrière, parce que c'est sa prédication, c'est ce qu'il disait. N'oubliez pas que vous devez le salut aux apôtres de Jérusalem. Donc, j'ai promis d'aider les saints de Jérusalem. Cette aide, elle montre que nous sommes en communion. C'est ça que j'appelle un sacrement, le sacrement de l'échange financier. C'est quoi un sacrement ? Définition, c'est un signe visible de la grâce invisible. Cet argent visible montrera visiblement que nous sommes en communion spirituelle, invisible, mes églises de Grèce et les églises de Jérusalem, que nous sommes bien membres du même corps du Christ. Donc l'acceptation de cette collecte est décisive pour Paul. Elle signera la vérité de toute sa vie apostolique. Soit on est fidèle à cet accord, et on est fidèle à cette communion fondamentale, et cette somme est acceptée, ou on n'y est pas fidèle, et alors là, les amis, c'est très grave. Tout ça, c'est très très grave. Là, il y a refus de communion. Alors, on peut dire maintenant, c'est là la différence entre le canon des Écritures et les historiens. Les historiens peuvent faire les hypothèses qu'ils veulent sur le fait que Luc, que la collecte aurait été acceptée ou pas, on ne sait pas. Canoniquement, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament tel que nous l'avons, nous supposons qu'elle a été acceptée. Parce que nous n'avons aucun argument probant pour aller en sens contraire. Donc, ce n'est pas parce que Luc ne le mentionne pas explicitement que ça n'a pas eu lieu. Et on peut dire, d'ailleurs, on peut dire les choses d'une autre manière, encore plus forte. Si tant est que, je vais parler un peu comme le pape François, si tant est que le démon ait réussi à faire que la collecte n'ait pas été acceptée historiquement quand Paul est arrivé à Jérusalem, l'Esprit Saint a changé cela en bien en faisant que, dans le Nouveau Testament, c'est considéré comme accepté, que Paul a gagné, que les actes des apôtres sont dans le canon, que les lettres de Paul, elles sont dans le canon. Donc la volonté de Paul de faire cette collecte, eh bien c'est ça que nous avons aujourd'hui. Nous avons Romains 15, 1 Corinthiens 8, Galates 2, c'est ça notre canon. Alors peut-être qu'historiquement, Paul a perdu, mais théologiquement, il a gagné. Et c'est ça qui est important. Spirituellement, l'Esprit Saint a gagné. Voilà. Donc in fine, m'en fous moi que la collecte ait été acceptée ou pas. Pas grave, historiquement. D'abord, on ne le saura jamais. Enfin, quand on sera au ciel, on demandera. Hein. On dira, alors Paul, c'était combien? 2 millions, 3 millions bon. Les sacs, ils étaient comment? Et puis les gros bras, là, Aristarque, ils ressemblaient à quoi? Parce que bon, Paul, il avait amené 12 mecs bien baraqués pour... Bon. Donc, très bien. Donc la somme, c'était combien? Donc ça m'intéressait parce que je monte un projet pour aider le Congo. Bon, très bien. Mais, vous voyez, on s'en fout. La chose importante, spirituellement, c'est que Paul a voulu le faire, qu'il a offert sa vie pour ça, qu'il est monté à Jérusalem pour ça. Donc il a risqué sa peau, très concrètement, pour ça, pour la communion des églises. Et donc ça veut dire que pour la communion des églises, on doit être prêt à faire des sacrifices, des compromis, à offrir sa vie, quoi. Voilà. Et ensuite, que la communion spirituelle entre chrétiens, ça passe par les sous. Bon, enfin, c'est comme dans une famille, hein. Ça veut dire... Non, mais entre frères et sœurs, non, mais je suis très conscient des problèmes que tu as en ce moment. Écoute, j'ai vraiment besoin que tu me fasses un prêt. Ah non, c'est pas possible, tu comprends, il faut que je paye les sous de la petite, l'appareil dentaire de l'aîné, ça coûte la peau des fesses, etc. Bon, je peux pas t'aider. Non, mais je suis très proche de toi, hein, je pense beaucoup à toi, hein, je prie beaucoup pour toi, pas un sou. Bah, écoutez, je suis désolé, mais il y a un problème. Il y a un problème. Si on est en communion spirituelle, on partage les sous. Et c'est pour ça que Pie XII, un gars qui était conscient de ça, c'est le pape Pie XII. Qui a créé non seulement le Fidei Dudum, mais et puis qui a développé toutes les œuvres pontificales missionnaires au plan mondial. Enfin, ça existait avant, les œuvres pontificales missionnaires. Mais Pie XII a beaucoup développé ça, au niveau de la caisse des séminaires, tout ça. Ben oui, si les églises riches n'aident pas les églises pauvres, alors on est en quoi? On est une église unie. Hein bon. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler, y compris d'ailleurs peut-être dans une communauté. Et là, entre parenthèses, nos frères évangéliques, les petites communautés évangéliques, sont souvent beaucoup plus évangéliques que les catholiques. Souvent, dans nos communautés catholiques, on ne sait pas, qui a besoin de choses dans la communauté, on ne sait pas qui est là, d'ailleurs. Bon. Donc, et puis, les catholiques, quand ils donnent 1% de leurs revenus à l'Église, alors là, c'est des champions du monde. Ils ont la médaille d'or olympique. Bon. Alors que, bon, dans beaucoup d'églises évangéliques, on donne plus, y compris des gens modestes. Voilà. Bon. Donc, Paul sait que ce voyage est risqué. Au départ, il ne pensait pas le faire. 1 Corinthiens 16, 3, 4. J'enverrai, muni de lettres, ceux que vous aurez choisis, portez vos dons à Jérusalem. S'il convient que j'y aille moi-même, ils feront le voyage avec moi. Sous-entendu, je n'ai pas encore décidé, ça ne sera peut-être pas nécessaire. J'ai quand même d'autres choses à faire. D'ailleurs, je veux aller en Espagne. Alors, comme tout le monde aura repéré, Jérusalem, ce n'est pas vraiment la route de l'Espagne quand on habite à Corinthe. C'est pas trop sur le chemin. Les voyages sont dangereux, danger des brigands, danger des mers, des naufrages, trois fois, bon, Paul le dit, il va se dire. Et puis, il y a là-bas des gens qui veulent ma mort. Moi, je suis très frappé par ce que dit Luc. Bon, ça, c'est des trucs qui ne s'inventent pas, quand même. 40 qui disent, on ne mangera pas et on ne boira pas avant de l'avoir tué. Quand je vous dis, pas boire, c'est 3 jours. Alors, c'est la question que pose John P. Meyer à la fin de son 3e volume sur Jésus, hein. Il y a vraiment des gens qui ont voulu qu'il meure, Jésus. Mais vraiment, vraiment. Parce que c'est pas si facile de provoquer un procureur romain comme ça, à froid, à condamner des gens à mort. Faut vraiment le vouloir. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment énervé, mais très sérieusement, des gens très importants. Bon, Paul aussi. Donc il y a des gens qui veulent vraiment le tuer. Et sans son neveu, donc, ils y seraient sans doute parvenus. Donc, Donc Paul, il le sait tout ça, il n'est pas naïf, ça fait des années, les rumeurs circulent, etc. Bon, donc, il sait qu'en allant à Jérusalem, il prend beaucoup de risques. D'où l'hypothèse de la lettre aux Romains comme ambassade anticipée de Paul. Bornkam. B-O-R-N-K-A-M. Bornkam, est-ce qu'il y a deux M en allemand? Je ne sais plus, peut-être. La communion spirituelle ne peut être séparée de la communion matérielle. Et Paul y consacre beaucoup d'énergie. Dès le début, pour lui, les échanges financiers font partie de la nature de l'Église. Le partage des ressources appartient à la nature même de l'Église. Et l'universalité de l'Église se traduit dans le partage des biens. Jésus est mort pour tous. Et cette collecte dit quelque chose d'essentiel à ce qu'est l'Eucharistie. Et d'ailleurs, Paul va le comparer à l'Eucharistie. Impossible de se souvenir du Christ sans se souvenir des pauvres, des saints qui sont à Jérusalem. Donc il écrit aux Corinthiens, « Quant à la collecte en faveur des saints, 1 Corinthiens 16:1, suivez-vous aussi les instructions que j'ai données aux églises de Galatie. Que le premier jour de la semaine, donc le dimanche, chacun de vous mette de côté chez lui ce qu'il aura pu épargner, en sorte qu'on n'attende pas que je vienne pour recueillir les dons. Une fois près de vous, j'enverrai muni de lettres, etc. » Donc, vieux projet, les instructions que j'ai données aux églises de Galatie. Alors, j'ai parlé de l'hypothèse que Paul aurait été trahi. Alors, bon, les historiens qui disent ça, alors les historiens, on peut les critiquer, mais enfin, ils font des hypothèses, elles ne sont pas basées sur du vent. Quand même, Romains 15, 30 et suivant, qui est pour moi un des passages avec Romains 9 les plus pathétiques de la lettre. « Je vous le demande, mes frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et la charité de l'Esprit, c'est une formule très solennelle, combattez avec moi dans les prières que vous adressez à Dieu pour moi, afin que j'échappe aux incroyants de Judée et que le secours que je porte à Jérusalem soit accepté par les saints. » Deux motifs de prière. Alors, échapper aux Juifs qui veulent le tuer, on comprend bien. Mais vous voyez, prier pour que le secours que je porte à Jérusalem soit accepté par les saints. Paul demande de prier pour qu'une forte somme d'argent soit acceptée. S'il demande ça, c'est qu'il pense que c'est pas gagné. D'où l'hypothèse que la somme a été effectivement refusée. Donc, dans un livre extrêmement suggestif qui s'appelle « La théologie politique de Paul », un juif allemand qui s'appelle Jacob Taubes, qui est mort en 88, je crois, 1988, qui était un homme tout à fait extraordinaire, qui discutait beaucoup de Paul, qui était passionné par Paul, et donc, en fait, il était un ami du sulfureux philosophe allemand Carl Schmitt. Il avait été pro-nazi, bon, très bien. Et il discutait de Paul avec Schmitt. Et un jour, en 85-6, bon, Schmitt lui dit, écoutez, c'est très intéressant ce que vous dites, vous devriez écrire là-dessus. Il dit, bon, je verrai. Et puis, on lui diagnostique un cancer. Et on lui dit, mon ami, vous avez 1 an à vivre maximum. Il est jeune, hein, Taubes. Et donc, il a consacré son dernier séminaire à l'université de Berlin à Paul. C'est une réflexion absolument fascinante. Alors, page 38 de la théologie politique de Paul, il dit ceci. Ma question est celle-ci. Si on apporte une grosse somme d'argent à la communauté de Jérusalem qui persévère dans la prière, mais qu'est-ce qui pourrait bien empêcher d'accepter cet argent? Pardonnez-moi de poser la question de manière aussi profane, mais qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas? Pourquoi l'argent ne devrait-il pas être accepté? Ma réponse est tout à fait fondamentale, mais en même temps fort simple. C'est une affaire empoisonnée. Si le fait que la communauté de Jérusalem avait reçu quelque chose de Paul venait à se savoir, alors, premièrement, cela légitimerait la position de Paul. Et les judéo-chrétiens arrêteraient la pompe à finances à l'aide de laquelle ils aidaient constamment les communautés de Jérusalem. Qui prend l'argent accepte du même coup l'argent des pagano-chrétiens. C'est encore valable aujourd'hui. Si l'argent ne vient pas d'une source convenable, c'est comme s'il était empoisonné. Et il prend l'exemple donc d'un séminaire actuel à Jérusalem. Et vous avez le roi des casinos de Vegas, la Sheldon Adelson, qui dit « Moi, je vous fais un chèque d'1 million de dollars. Vous êtes un rabbin orthodoxe à Jérusalem. Vous le prenez, le chèque ? Pour qu'après, on raconte dans tout le monde orthodoxe, tu prends l'argent de la prostitution et du jeu de Las Vegas ? Bon, Adelson, il est juif comme vous êtes bouddhiste, enfin, et moi. Enfin, sa mère est juive, sans doute, je ne mets pas en cause, mais enfin, au niveau de la pratique, il ne faut pas chercher dans les coins. Bon. Donc, là, c'est une vraie question, ça. Il dit actuellement, dans le monde juif orthodoxe, que je connais aussi un petit peu, vous n'acceptez pas l'argent de n'importe qui, parce que accepter l'argent, c'est une question de légitimation. Donc, si vous jugez que celui qui vous offre l'argent n'est pas religieusement crédible, vous ne le prenez pas. Et s'il faut manger du pain et des biscottes, vous restez au pain et à l'eau. Parce que vous perdriez beaucoup plus sur le plan religieux en acceptant l'argent qu'en le refusant. C'est exactement ce qui est en jeu pour Paul. Telle était l'inquiétude qui agitait Paul intérieurement. Pourquoi y va-t-il en personne? On peut très bien envoyer de l'argent aujourd'hui comme à l'époque. Mais évidemment, s'il veut y aller en personne, c'est pour y chercher une légitimation. Quand quelqu'un apporte une grosse somme d'argent, il s'agit toujours en même temps de légitimation, jamais seulement de philanthropie. En fait, ce n'est pas du tout une question de philanthropie, mais de légitimation. Bon là, il fait un peu d'humour. Pour Paul, sa venue à Jérusalem constituait d'abord un problème de légitimation. Bon, alors, évidemment, pas seulement, mais disons, c'était une manière pour Paul de faire valider une deuxième fois l'accord qu'il avait obtenu en Galates 2, 14 ans, enfin 49 et 58, 9 ans avant. En 9 ans, là, beaucoup de choses changent. Hein. Bon. Donc, mais là où Taubes a totalement raison, c'est que accepter l'argent de Paul, ça veut dire pour les communautés de Jérusalem, reconnaître que les communautés de Paul sont cachères, pour employer un terme juif, sont des chrétiens de plein droit auxquels on n'a aucun reproche théologique à faire. Donc, que Paul est reconnu comme un apôtre légitime dont l'évangile est parfaitement valable. Pas oui, mais oui, si, c'est pas mal, tant que je comprends, non, c'est bien, on t'en veut pas. Non. Bon, ceux qui devaient dire ça, bon, il y avait les fous furieux qui disaient c'est vraiment un pas bien du tout. Et puis il y en avait un certain nombre qui devaient dire oui, c'est pas mal, mais enfin quand même, bon, ils respectent pas complètement les décisions que nous on a mis au point ici, bon, c'est compliqué, etc. Bon. Paul, il dit, ni oui, ni mais, bon, voilà, on est en communion ou pas. Et Paul va aller plus loin, il va mettre en parallèle ce geste avec l'attitude même du don du Christ. Cette générosité de ces églises correspond à la générosité du Christ lui-même. Et Paul n'a pas peur, ça c'est encore un truc à rester assis sur sa chaise, à mettre sur le même plan cette collecte avec le don du Christ de sa vie. Sur la croix, le centre absolu du mystère. Bon. Dans 2 Corinthiens 8, nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. Donc c'est un don de Dieu. Au milieu des multiples détresses qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé en trésors de libéralité. Selon leurs moyens, et j'en suis témoin, au-delà de leurs moyens, en toute spontanéité, avec une vive insistance, ils nous ont réclamé la grâce de participer à ce service au profit des saints. Alors ça, c'est peut-être vrai. Paul a pu dire, vous savez, depuis des années, bon, j'ai demandé aux églises de Galatie et puis à d'autres de collaborer. Bon, je sais que vous êtes très pauvres, donc je ne vous demande rien. Puis alors, les gens ont été vexés, comment? Ah non, mais nous, c'est pas parce qu'on est pauvres qu'on va rien donner. On veut participer. Paul a dit, bon, si vous insistez, ok. Au-delà même de nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes. Alors là, c'est une phrase typiquement paulinienne, j'adore. D'abord au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Aussi avons-nous insisté auprès de Tite pour qu'il mène à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité comme il l'avait commencée. Bon, toute cette idée de la collaboration. Tite, c'est comme un autre Paul. Donc je l'ai délégué pour ça. Voilà. Mais puisque vous avez de tout en abondance, foi, éloquence, science, toutes sortes de zèle et d'amour que vous avez reçus de nous. On a envie de dire, attends Paul, vous avez reçu de l'Esprit-Saint. De nous. Mais quelque part, la foi passe par des gens, on la reçoit par des gens. C'est ce que je vous ai dit de la théologie de Paul. Vous êtes devenus croyants en m'écoutant, vous êtes mes fils. Mais c'est Dieu qui nous a donné la foi. Oui, mais enfin, ça passait, il faut bien que quelqu'un annonce quand même. Bon, et c'est moi, donc c'est passé par moi. Donc vous avez reçu de nous. Ayez aussi en abondance de la générosité dans cette occasion. Je ne le dis pas comme un ordre. C'est comme à Philémon. Je ne t'ordonne rien. Enfin, n'oublie pas que la dette envers moi, c'est ta vie, évidemment. Mais en vous citant le zèle des autres, je vous permets de prouver l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet la générosité du Christ, voilà, charis, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. Le paradoxe christologique, le paradoxe de la croix, lui, le Fils de Dieu n'a pas retenu comment, etc., s'est fait jusqu'à mourir sur la croix. Donc c'est ce geste fondamental de la générosité de Dieu en Christ pour nous, pour les hommes, qui est le modèle de cette collecte. C'est quand même incroyable. C'est un avis que je donne à ce sujet. C'est ce qui vous convient à vous, puisque vous avez été les premiers, non seulement à réaliser, mais aussi à décider cette œuvre dès l'an dernier. Alors, décider cette œuvre dès l'an dernier, en Macédoine, bon, c'est-à-dire enfin, à l'église de Corinthe, à qui, plutôt en Achaïe, puisque la Galatie a commencé depuis plusieurs années. Donc, le vrai motif de la collecte est christologique. Alors, vous voyez, je balance entre deux motifs aujourd'hui. Motif ecclésiologique, mais qui est fondamentalement christologique, hein, la communion des églises, dont le fondement radical est christologique, le Christ est mort pour tous. Pour vous et pour la multitude. Dans le pour vous, il y a toutes les églises. Voilà. Tite a encore été élu par le suffrage des églises comme notre compagnon de voyage dans cette libéralité, dont le service est assuré par nous, pour la gloire du Seigneur lui-même et pour notre propre satisfaction. Bon, là, Taubes a un peu raison, c'est une question de légitimité. Par là, nous voulons éviter qu'on aille nous décrier pour cette forte somme dont ce service est assuré par nous. Pour ce qui est de Tite, c'est mon associé coopérateur auprès de vous, quant à nos frères, ce sont les envoyés des églises, la gloire du Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité et du bien fondé de notre fierté à votre égard. Bon, avec ça, si vous ne donnez pas à la quête le dimanche d'après, vous êtes vraiment dur d'oreille. Parce que vous mettez votre père spirituel dans la honte, vous le faites rougir devant les autres églises, il va dire, ah ben non, c'est les Corinthiens, ils n'ont rien donné. Ils ont donné 30 euros. Ah bon, les Corinthiens, mais je croyais qu'ils étaient super généreux. On n'est jamais trahi que par les siens. Bon. Surtout que Corinthe, donc, alors j'oublie maintenant, 5e, 6e ville de l'Est de la Méditerranée, 100 000 habitants, colonie romaine, deux ports, beaucoup de marchands et de commerçants, les plus grands bordels de tout l'Orient. Korinthiazein, en grec, ça veut dire se prostituer. Hein, le verbe de la ville, Korinthiazein, c'est la prostitution. Alors, qui dit prostitution, dit beaucoup d'argent. C'est comme ça. Donc, c'est une ville où il y a beaucoup de trafic. Et en plus, qui est le trésorier de la ville? Voilà, lui, celui-là même. On a retrouvé une inscription en 1929, je crois, dans les fouilles de Corinthe. Ça, c'était très intéressant dans le lien à archéologie évangile, hein, parce que bon, la lettre aux Romains à la fin, hein, Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, Erastos. Donc, on en déduit que le trésorier de la ville de Corinthe, tenez-vous bien, appartenait à la communauté chrétienne. Et on a retrouvé une inscription en latin, parce que c'est une ville bien que grecque, mais refondée comme colonie romaine, donc c'est une ville où il y a pas mal, dont les institutions sont latines, et où le latin est plus présent que dans les autres villes grecques. Donc un citoyen romain comme Paul doit y être plus valorisé qu'ailleurs. Donc on a retrouvé ce panneau, Erastus, Edilus, Prefectus, quelque chose, Fecit, enfin sur une route, je crois. Bon, à l'époque, les trésoriers, les économos de la ville mettent... Alors il y a tout un débat sur, est-ce qu'évidemment l'économos Thespoléos, hein, l'économe de la ville de Romain XVI, c'est bien l'Erastus dont on a trouvé l'inscription. Du 1er siècle, ça colle, hein. Bon, ça colle, mais enfin, après tout, Erastos, c'est pas non plus un nom, bon, ça pourrait être quelqu'un d'autre. En tout cas, ça montre la crédibilité de ça. Tout ça pour dire que il y a dans la communauté chrétienne des gens qui ont des biens. Donc, Paul ne peut pas attendre forcément des pauvres esclaves qui travaillent 12 heures par jour dans les plantations, au port, ou dans les chantiers, qu'ils donnent des sommes mirobolantes. Par contre, Phébé, Eraste, ils peuvent y aller, ils ont des moyens, ils accueillent dans leur maison pour l'Eucharistie du dimanche 30, 40, 50 personnes chaque semaine, et c'est eux qui essentiellement font l'essentiel en tant que chef de maison des dépenses. Donc ils ont des moyens. Voilà. Donc Paul attend d'eux une générosité correspondant à leurs moyens. Voilà. Donc, par rapport à l'image d'un Paul, si vous voulez, apôtre solitaire, menant son chemin, allant là où personne n'a été, se préoccupant pas des autres églises, il faut rappeler que Paul a voulu que ses églises, entre guillemets, oui, ses églises, bon, ses fils, soient en communion D'une part les unes avec les autres, et d'autre part avec l'église des saints de Jérusalem, l'église des apôtres, l'église de Képhas, de Jacques, à qui il avait donné la main droite, Képhas qu'il avait vu 3 ans après sa conversion, donc en 36, mettons, 35-36. Donc là, on est en 58. Ça fait plus de 20 ans que Paul est missionnaire, plus de 20 ans qu'il a rencontré les apôtres, etc. Je montais à Jérusalem pour ne pas risquer d'avoir couru en vain. Voilà, Galates 2. Donc pour Paul, la solidarité entre chrétiens est le signe concret de l'appartenance à un même corps. Alors bien sûr, je ne l'ai pas trop dit, mais c'est évident, ça passe par la prière les uns pour les autres, ce que nous faisons à la prière universelle, très important, par l'accueil de tous, la prise en compte des faibles par les forts dans la foi. Vous savez, c'est le côté quand Paul, il y a des petits-enfants qui boivent du lait, et puis il y a des adultes qui mangent de la viande. Bon, Paul, il a employé des expressions qui, malheureusement, ont été déformées par les hérétiques et les gnostiques à partir du IIe siècle. Il y a encore des sectes comme ça, les Rose-Croix, par exemple, que j'ai connues au Cameroun. Bon, vous savez, des chrétiens de deuxième dan, troisième dan, quatrième dan. Puis en plus, il y a beaucoup d'argent derrière. Alors, pour passer d'un niveau à l'autre, on vous transmet les secrets. Bon, c'est ça le gnosticisme, il y a des secrets. Même après le baptême, on ne vous dit pas tout. Et alors, après, il y a des étapes. Donc la gnose. Donc là, vous voyez une ligne de crête très fine que toutes les églises doivent tenir. C'est-à-dire, il nous faut tenir deux choses qui sont toutes les deux vraies. D'une part, tous les chrétiens, juifs, grecs, hommes, femmes, enfants, adultes, esclaves, hommes, libres, barbares, scythes, blancs, noirs, etc., allonger les catégories, sont égaux, ont le même baptême, partagent les mêmes sacrements, ont le même baptême, le même Eucharistie. Et d'un autre côté, il se trouve que c'est vrai dans la communauté. Il y a des plus avancés sur le chemin spirituel. Bon, des gens qui en sont encore au lait, des gens qui en savent plus que d'autres, mais qui en savent pas sur le cœur de la foi, qui sont en pratique spirituellement plus avancés. Ce que Paul va appeler, alors bon, on lui a reproché après les parfaits. Alors, parfait, c'est ambigu, parce que les gnostiques vont utiliser ce terme. Il y a les imparfaits, les parfaits, ou les cathares. Bon, alors les cathares, vous savez, il y avait 99% d'imparfaits, puis il y avait 1% de parfaits, bon, qui contrôlaient tout. Bon, évidemment, ça, c'est une caricature de Paul. C'est pas ce que Paul a voulu. En même temps, Paul, il propose un chemin spirituel. Bon, on sait tous qu'on a, il y a un chemin spirituel, que on monte et on descend sur une échelle quand même, c'est vrai. Enfin, d'ailleurs, on ne fait pas que monter, malheureusement. Ça serait bien si on faisait que monter. Bon. Mais voilà. Donc Paul, il dit à la fois, il est, une fois de plus, c'est un pasteur réaliste, il sait bien qu'il y a des gens qui sont, voilà, ce qu'il va appeler dans Romains 14, des gens, plus ou moins, c'est un devoir pour nous, les forts, de porter les faiblesses, les faibles, de ceux qui n'ont pas cette force. Bon. Soyez accueillants les uns pour les autres. Voilà, même quelqu'un, où il y a un frère dans la communauté qui dit une grosse bêtise, que ce soit en théologie ou en pratique, il faut le corriger gentiment pour dire non, il ne faut pas dire ça. Bon, donc il y a des gens qui sont plus spirituellement plus fins, plus avancés, c'est vrai ça. Bon. Donc entre frère Roger de Thésée et, un candidat Front National, qui sert la pince au curé, là, Fréjus, le curé tout content, félicitations, votre élection, on peut préférer les uns aux autres. Je ne dis pas, bon. Mais jamais au risque de porter atteinte à cette égalité fondamentale. C'était tellement un problème à la fin du 1er siècle, je ne sais pas si vous avez prêté attention à ça, vous savez, la mère de toutes les paraboles, la parabole des paraboles, la parabole du semeur, par laquelle Jésus commence sa mission dans Marc, Luc et Matthieu. Dans Marc et Matthieu, vous savez, le bon fruit qui donne du fruit 30, 60, 100 pour un. Alors, dans Marc et Matthieu, ce n'est pas encore de problème, ça. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin du 1er siècle? Et surtout au second? Il y a des gens qui arrivent en disant, il y a trois catégories de chrétiens, première dame, deuxième dame, troisième dame, il y a les chrétiens de 30, les chrétiens de 60, puis les chrétiens de 100. Alors du coup, évidemment, problème. Alors Luc, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime. Parce que de l'avis de la théorie standard, comme vous savez, Luc, il a l'évangile de Marc, il le reprend. Il reprend 95% de Marc. Mais là, quand il arrive à ça, il se dit, mais ça, c'est utilisé par les hérétiques, par les gnostiques. Donc, je vais le changer pour que ça ne soit pas mal interprété. Donc, ça devient... Voilà, la parole de Dieu. Le semeur est sorti pour semer. Bon. Une autre est tombée dans la bonne terre, elle a poussé, elle a produit du fruit au centuple. Alors, Luc, il garde 100. C'est tout, pour tout le monde. Et quand il l'explique, quand Jésus l'explique dans Luc, « Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur kaloska agathos », qu'on traduit ici « noble et généreux », mais c'est une expression grecque, « la retiennent et portent du fruit par leur persévérance ». Il a tellement peur que les gens commencent à voir des catégories de chrétiens dans cette parabole fondamentale de Jésus, qu'il enlève le 30-60-100 pour garder que 100 et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Donc, Paul reconnaît qu'il y a voilà, des chemins spirituels, des points d'avancement différents, des gens plus avancés que d'autres, ok, très bien, on peut aller jusque-là, mais pas des chrétiens de catégories différentes. Donc la mort de Paul est une morte offerte pour la communion des chrétiens. Il ne serait sans doute pas mort ainsi s'il n'était pas venu se jeter dans la gueule du loup à Jérusalem. Alors, il voulait aller à Rome. À Rome, c'est une grande ville. Hein. Bon, alors je reviendrai la prochaine fois sur Romains 16 et la communauté de Rome. Mais bon, vraiment, en allant à Jérusalem, il se jetait dans la gueule du loup 10 fois plus qu'à Rome. Paul portait un désir profond d'aller vers l'Espagne, vers les terres de l'Ouest, pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde et aux îles lointaines. Donc aller à Jérusalem, c'est un détour. En plus, c'est un vieil homme. On me dirait un vieil homme. Pour l'époque, c'est un vieil homme. Il a quand même été lapidé 3 fois. Il a reçu 5 fois les 39 coups de fouet. Il est couturé de cicatrices. Il a été dans le coma un jour et une nuit. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne va pas non plus vivre éternellement. Une fois de plus, cette décision de monter à Jérusalem est une décision coûteuse, importante, qui dit l'importance qu'il attache à cette... voilà. C'était pour lui presque une sorte de retour en arrière que d'aller en Judée. Il n'a pas besoin d'y aller sur le fond. Si ce n'est que, s'il n'y va pas, eh bien, la victoire des faux frères, la victoire de ses adversaires à Jérusalem, pourrait mettre en péril toutes ses églises. Non pas que ses croyants le renient, mais que du coup il y ait 2 églises, que les Pauliniens soient à part, et les Pétriniens et les Jacobites à part, c'est ça le danger. Le grand miracle du Nouveau Testament, c'est que à la fin du 1er siècle, vous avez simplement quelques milliers de chrétiens. Je ne sais pas, il y a 55 millions d'habitants dans l'Empire romain, il y a 5 millions de juifs, et vous avez 8000 chrétiens, c'est groupusculaire. Mais plus les groupuscules sont petits, plus ils se divisent. Ça, on connaît bien sociologiquement. Donc, l'enjeu que les Jacobites, les Pétriniens, les Johanniques et les Pauliniens se reconnaissent mutuellement, reconnaissent qu'ils appartiennent à la même communauté, qu'ils sont membres du même corps, même s'ils ont des différences de liturgie, même s'ils ont des différences de rite, même s'ils ont des différences d'origine ethnique, etc., etc. Ils ne célèbrent pas les fêtes au même jour, etc. C'est pas... Bon, voilà. Alors les Johanniques disent, voilà, reconnaissez notre tradition de Jean l'Ancien, nous reconnaissons l'autorité de Simon-Pierre, Simon fils de Jean, paie mes brebis, m'aimes-tu plus que ceci? Ok, pas de problème. Et Paul, la même chose. Luc, il dit, mais Pierre, voilà, Pierre, il n'y a pas de problème. Quelle est la concession la plus forte que fait Luc en tant que Paulinien? Pour finir par un peu de proto-catholicisme. Dans Luc 22, 31-32. Un truc qui a beaucoup choqué tous les exégètes, pour le coup même catholiques, quand on y réalise. Hein. Vous savez, la primauté de Pierre chez Luc, elle est enracinée dans la prière de Jésus pour Pierre à Gethsémani, pas à Césarée de Philippe. Il l'enlève, là, Luc, c'est pas important. Primauté de Pierre, quand on est dans les tambours et trompettes, là, en Galilée, tout va bien, les petits oiseaux, tout, c'est facile, hein. Quand Pierre dit « Non, non, moi je ne te trahirai jamais. » Bon, vous savez ça. « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Vous, pluriel. Il ne se met pas à vous, voyez, Simon. Donc ce double appel, très rare dans l'Écriture. Hein, Abraham, Abraham, Moïse, Moïse, Samuel, Samuel. Bon, Simon, Simon. « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. « Toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Voilà la mission de Pierre. Donc tous les 12 vont être tentés au moment de la Passion, et Jésus, il est quand même vache, il prie que pour Pierre. De la part de Luc, le Paulinien, c'est de dire, voilà, c'est le pivot, ok, on l'admet, c'est le roc, Képhas. Mais Képhas a reconnu le début des Actes, il a reconnu Paul. Alors commencez pas à nous dire que, voilà, Paul, il n'est pas dans la grande église et qu'il s'est foutu de la grande église et que c'est un hérétique, etc. C'est pas vrai. Pierre et Paul ont été en communion. Mais à Antioche, ils se sont dit, ok, ils ont eu leur dispute, mais fondamentalement, ils ont été en communion. Voilà ce que dit Luc. Et il a tort ou raison, bah, la preuve, dans le Nouveau Testament, on a Luc, Jean, Paul, lettre de Jacques, et l'évangile de Marc qui est lié à Pierre. Donc, ces grands groupes se sont reconnus mutuellement. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, alors même que, sociologiquement, ils avaient plein de motifs de se séparer. Ils vivaient dans des endroits différents, dans des langues différentes. Eh bien, ils se sont quand même reconnus. À jeudi.